Ma Lucan tu poco mi ali si ti bravo non mi amori tra la le da la rilla la Ma Lucan tu poco mi ali si ti bravo non mi amori tra la le da la rilla la Amore solo de nient'altro mi bisogna. Amore solo de nient'altro mi bisogna. Amami come da me un'onna e nessun valgogna tra la lera la rinna la. Amami come da me un'onna e nessun valgogna tra la lera la rilla la.
Remue ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8.
Et oui, bonsoir, c'est Remue Ménage et ce soir un Remue Ménage où on va beaucoup voyager. D'abord, on va aller au Burkina Faso en compagnie de Martine Béguin qui est allée danser là-bas et aussi discuter avec de nombreuses femmes. Et ensuite, eh ben, nous allons au Salon du Livre.
Oui, parce que ce matin, nous étions en direct pour vous au Salon du Livre à l'ouverture. Et nous avons ramené, glané quelques petites interviews comme ça, au hasard de notre découverte du Salon du Livre. Mais pour commencer tout de suite, un peu de musique.
Traz o filho às cavalitas.
C'était Donna Summer. Martine Béguin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée de ce soir. Vous êtes allée au Burkina Faso danser.
Oui, j'y suis allée à Noël pendant 15 jours.
Alors voilà, nous, on a très envie de retourner en pensée avec vous au Burkina Faso et puis de voir un peu qui vous avez rencontré. Je crois que vous avez rencontré passablement de femmes. Vous avez eu la chance de vivre parmi elles pendant 15 jours. Alors là, pendant une demi-heure, on va profiter de revoyager en votre compagnie. Comment ça s'est passé, votre arrivée au Burkina Faso ?
Bon, alors on était parti un groupe d'une vingtaine de personnes. On est arrivé à Ouagadougou de nuit. Et je dois dire que c'était assez impressionnant parce que Ouagadougou, je m'attendais à découvrir une capitale. Et en fait, j'ai découvert un espèce de grand village avec des rues pour la plupart encore en terre battue. Peu d'éclairage, une petite ville très simple en fait. Et puis ensuite, de là, le lendemain, on est parti en bus. On est allé jusqu'à Bobo. Et on a habité à Bobo du Lasso, dans un des quartiers dans lequel habite mon professeur de danse, Pacoyer.
Alors vous avez habité dans un quartier, plus précisément dans des familles.
Oui, c'est ça. On s'est installé dans des cours. En fait, chacun de nous a été un petit peu réparti dans les différentes maisons du quartier. Les gens habitent là-bas dans de grandes cours. Alors c'est des maisons en terre battue qui sont entourées d'un mur, en terre battue aussi. Et dans chacune des petites huttes, il y a la cuisine, la soi-disant salle de bain où il y a juste des murs et puis un petit trou. Le puits duquel on tire l'eau et nous on s'est installé chacun dans des petites chambres comme ça, très simple.
Combien de maisons dans ces cours, enfin de huttes?
Disons, ça dépend des cours. Il y en a de plus grandes et de plus petites. Je crois que chez moi, il y en avait 6 ou 7 à peu près. Les chambres de chacune des personnes qui habitaient là, la cuisine, un enclos pour les moutons, la salle de bain, et puis quelques petits murs aussi pour se cacher quand on va aux toilettes, c'est tout.
Et c'est tous les membres d'une même famille qui habitent ces cours ?
En général, oui. En général, la cour appartient au père de la famille, et toute la famille vit avec jusqu'au moment du mariage. Alors à ce moment-là, les filles quittent la cour pour aller vivre dans la cour de leur mari.
Alors dans ces cours, vous avez dansé ?
Oui, alors on habitait chacun dans des cours chez l'habitant, et puis Pacoyé avait réservé une cour spéciale pour nous, une cour très belle avec un grand manguier au milieu, et on dansait en plein air, oui, dans la cour, sur la terre battue.
Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces danses du Burkina Faso ?
Bon, je ne connais pas les autres danses africaines. Je pratique cette danse burkinabé avec Pacoyé depuis 2 ans bientôt. C'est des danses qui sont très intéressantes, que j'aime beaucoup danser, parce qu'on travaille avec des percussionnistes qui jouent pour nous, avec lesquels on a ce contact direct. Donc, ce que je trouve très agréable, c'est que ce n'est pas des cours de danse rigides avec des miroirs et tout ça, c'est qu'on est vraiment en contact direct avec la musique constamment. Et à Bobo, ce qui était très agréable, c'est qu'en plus, on a pu danser avec des gens du pays qui venaient au cours, qui participaient au cours et qui dansaient avec nous, des hommes et des femmes.
Mais j'imagine qu'ils avaient une approche de la danse qui était très différente de la vôtre.
Ben oui, déjà à Genève, en fait, déjà pendant les cours avec Paco, on s'est aperçu que le travail que lui nous demande est très différent de celui des cours de jazz ou de classique qu'on peut faire à Genève. C'est une autre manière d'aborder le corps. On doit se laisser envahir par le rythme, se laisser prendre par la musique.
Mais les pas sont précis ou bien c'est plus une impulsion personnelle ?
Nous, il y a des pas précis, quand même, oui. C'est des chorégraphies qui partent de pas de base assez simples, et puis les mouvements sont développés dans le rythme et la danse s'anime comme ça au contact de la musique. Mais il y a quand même une chorégraphie de base, oui.
Et lorsque vous êtes arrivée là-bas, vous avez eu l'occasion, vous m'avez dit, de danser avec des femmes. Vous avez pu vous introduire dans leur danse comme ça facilement, ou bien comment ça s'est passé ?
Ben disons, le matin, on avait le stage, et l'après-midi, le groupe de Paco, le groupe de musiciens, jouait souvent dans des baptêmes. Et dans ces baptêmes, les hommes et les enfants s'asseyent et regardent, et ce sont les femmes qui dansent. Elles dansent en cercle. Et quand elles ont vu évidemment qu'il y avait des Européennes qui étaient là, qui les regardaient, elles nous ont invitées à danser avec elles. Ça les faisait sourire évidemment, parce qu'on ne danse pas comme elles, mais elles étaient très contentes, je crois, de nous attirer dans leur danse et de petit à petit nous montrer les pas, de nous permettre de danser avec elles.
La danse est extrêmement importante au Burkina ?
Ben oui, je crois que toutes les cérémonies, en fait, que ce soit les baptêmes, les mariages ou même au moment parfois des décès, il y a des danses rituelles qui accompagnent chaque moment important de la vie des Burkinabés.
Et là justement, quand vous dansiez avec elle, elle vous montrait les pas, comment ça se passait ?
Bon, en général, elle venait nous tirer de notre banc parce que nous on était un petit peu timides, on n'osait pas y aller au début. Et puis ensuite, on se plaçait dans le cercle et il y avait toujours une fille devant moi par exemple qui me montrait les pas. Et puis quand on arrivait à la nuit tombée et que je ne voyais plus ce qu'elle faisait, je mettais mes mains sur les hanches de la fille devant moi pour savoir qu'est-ce qu'elle était en train de faire avec ses pieds, avec ses hanches et tout ça. C'était très sympa.
Et puis je crois que dans ces danses-là, il y a aussi des solos. Vous faisiez des solos quand c'était votre tour.
Ça m'est arrivé, oui. Parce qu'en fait, on danse en cercle et au moment où on arrive devant les musiciens, les femmes se placent dos aux musiciens. Elles dandinent du derrière un maximum sous leur nez. Et chacune des femmes qui arrivent en fait devant les musiciens doit faire un solo. Alors je devais effectivement à chaque fois en faire un. Ça les faisait beaucoup rigoler. C'était sympa.
Vous étiez gênée au départ ?
Au départ, oui, mais c'est vrai qu'on est très vite pris dans la danse, dans le contact avec elles, et puis elles sont très chaleureuses, elles sourient beaucoup, elles sont très sympas. Alors au bout d'un moment, c'était vraiment un plaisir de danser avec elles.
Mais ces baptêmes ont lieu n'importe quel jour de la semaine ?
Voilà. C'est-à-dire que la famille, en fait, quand l'enfant naît, réunit l'argent pour organiser la fête. Et la fête s'organise dans la rue, en fait. Ils installent des bancs sur la rue en terre battue. Les musiciens s'installent.
Mais
et tous les gens du quartier arrivent.
Les musiciens ne sont pas là par hasard. On les a commandés.
Non, on les a commandés, oui. Oui, oui. Ils sont payés aussi. Et les femmes organisent aussi un buffet avec de la nourriture, des boissons. Et puis, les enfants du quartier viennent s'asseoir petit à petit, les voisins, les amis. Et les femmes arrivent dans de très beaux habits. En général, elles ont des pagnes très beaux, plus chics que ceux qu'elles portent au quotidien. Et elles arrivent, elles commencent la danse. Et souvent, la maman de l'enfant danse elle aussi. Et puis, à la fin, les femmes qui dansent organisent une collecte, souvent pour la femme qui vient d'avoir l'enfant, pour l'aider à subvenir à ses besoins et pour acheter des vêtements pour l'enfant, par exemple.
Alors nous, malheureusement, on n'a pas de musique du Burkina. On n'avait pas ça dans nos archives. On va faire une petite pause musicale et je crois que c'est Art Black. Martine Béguin, par l'intermédiaire des danses, vous avez donc vécu aussi dans ces cours, vous avez pu rencontrer beaucoup de femmes, je crois.
Oui, j'ai surtout rencontré des femmes, parce que déjà la cour dans laquelle j'habitais était habitée avant tout par des femmes. Il y avait la maman, le papa était décédé, donc la cour appartenait à la maman. Et puis il y avait la fille, sa fille aînée, qui avait 22 ans, que j'ai rencontrée dans cette cour et avec laquelle j'ai souvent eu l'occasion de discuter.
Comment elle s'appelait ?
Elle s'appelait Mame Denis. Elle avait un petit bébé de 8 mois, je crois. Je ne me souviens pas exactement de l'âge de l'enfant. Et elle n'était pas encore mariée. Elle attendait impatiemment le moment de son mariage.
Alors, vous avez parlé avec elle. Comment ça se déroulait sa journée à elle, sa journée quotidienne ?
Et quand j'ai discuté avec elle, elle m'a expliqué que les femmes burkinabées ont beaucoup de travail en fait, au quotidien, pour toutes les tâches ménagères surtout. Et dans sa famille, ils avaient aussi des jardins, des petits jardins potagers, juste à côté de la cour. Et c'est les femmes qui s'en occupent toujours. Alors elle était partagée entre la lessive, la préparation des repas, le travail dans les jardins potagers, la récolte. Enfin, elles ont beaucoup de travail. Et en plus, même si elle n'est pas encore mariée, elle devait encore s'occuper de la lessive de son futur mari.
Qui n'habitait pas avec elle, du reste.
Non, pas pour l'instant, non.
Et malgré tout, elle devait s'occuper de sa lessive.
Voilà, parce qu'elle lui est promise et qu'elle est la mère de l'enfant de ce monsieur.
Et on se lève tôt au Burkina ?
Oui, les femmes commencent leur journée très tôt, à l'aube. Et puis, elles balaient la cour, elles s'occupent des enfants, elles les lavent, elles les préparent, elles les envoient à l'école si les enfants y vont. Et puis ensuite, elles commencent avec les tâches ménagères de la journée. Mais comme il n'y a pas d'appareil électroménager, comme il n'y a
aucune d'électricité,
voilà, pas d'eau courante, alors il faut tout prend beaucoup plus de temps, en fait.
Qu'est-ce qu'elle vous a parlé de son enfance, par exemple ?
Elle m'en a assez peu parlé. Elle m'a parlé surtout de ce qu'elle avait eu la chance d'avoir une scolarité primaire assez complète, ce qui m'a permis d'avoir de bons contacts avec elle parce qu'à l'école, elle avait appris le français. Ça, c'est assez rare parce que souvent, les enfants sont trop pauvres pour pouvoir faire des écoles pendant assez longtemps pour parler le français correctement. C'est à peu près tout ce que je savais de son enfance, disons. Et le décès de son papa qui fait que sa mère et elle ont toute la responsabilité de la cour.
Alors là, elle a 22 ans, elle a déjà un enfant. Je crois que vous avez parlé, alors l'attente de mariage, c'est très important pour elle parce que elle va être reconnue.
C'est ça, oui. Parce qu'en fait, je crois que c'est fréquent. Hein. En Afrique, souvent, les femmes se retrouvent maman avant d'être mariées. Ça, c'est les aléas des problèmes de la contraception en Afrique. Mais le mariage pour elles reste quelque chose de très important parce que sinon elles n'ont aucun droit, elles ne peuvent pas exiger quoi que ce soit de l'homme avec lequel elles ont eu l'enfant.
Justement au niveau de la contraception, je crois qu'elle a eu des surprises lors de la première pesée de son bébé.
Oui, c'est la première fois qu'elle a entendu parler de contraception. Jusqu'alors, on lui en avait vaguement parlé, elle était un petit peu au courant, mais elle n'aurait jamais pensé à la prendre par exemple. Et elle me disait que maintenant qu'elle avait eu cet enfant, oui, elle pensait prendre la pilule peut-être. Je lui demandais comment d'autres femmes considéraient la contraception. Elle me disait que souvent les femmes qui déjà avaient eu des enfants se mettaient à la contraception, mais que souvent le mari était très réticent parce que pour eux, l'idée d'avoir une grande famille, ça fait partie un peu des valeurs familiales et sociales qui permettent à l'homme d'être reconnu. Et ils n'aiment pas tellement l'idée que ce soit la femme qui décide le moment où elle veut avoir un enfant.
Et là, le fait d'avoir un enfant sans être mariée, est-ce que ça lui posait beaucoup de problèmes ?
Non, je crois pas.
Elle aurait pu concevoir rester dans sa cour sans être mariée.
Oui, mais difficilement parce que bon, c'est quand même une charge. Et puis, il faut savoir qu'au moment du mariage, c'est le mari qui apporte la dot à la famille de la femme. Et que c'est le mari qui prend en charge les dépenses que lui occasionne le fait d'avoir une famille. Donc pour elle, en fait, la difficulté, c'était de savoir que sa maman était en difficulté financière et qu'elle était un peu une charge pour elle puisqu'elle n'avait pas de travail rémunéré à côté de ses activités pour la maison.
Et est-ce qu'elle avait un... Que répondait son mari, puisque je crois qu'elle attendait d'être mariée? Il n'avait pas l'air d'être très pressé.
Il n'avait pas l'air d'être très pressé, non. Bon, l'excuse invoquée, c'était que les mariages coûtent cher et comme ils sont à la charge du mari, il disait qu'il voulait attendre le moment d'avoir plus d'économies pour pouvoir organiser un beau mariage, inviter tous les amis, toutes les familles. C'est vrai que les mariages sont de très grandes fêtes et qu'il faut pas mal de moyens pour pouvoir l'organiser. Mais j'avais un peu l'impression qu'elle ressentait ça comme une fuite de sa part à lui et qu'elle appréhendait un peu de ne pas être mariée dans le courant de l'année à venir parce qu'elle ne savait pas très bien comment elle s'en sortirait financièrement autrement.
Et là, à part, bon, elle a du travail à faire pour sa maison, est-ce qu'elle envisage de travailler ailleurs, par exemple?
Oui, elle me disait qu'elle aurait aimé travailler dans une usine qui fabrique des pâtes d'arachide, entre autres choses. Elle espérait beaucoup obtenir un travail à l'extérieur pour avoir au moins un minimum d'argent à elle. Je crois que beaucoup de femmes essaient maintenant d'acquérir cette indépendance-là, mais la difficulté, c'est que pour la plupart, elles n'ont pas de diplôme professionnel et elles se retrouvent à travailler dans des usines et les postes sont encore peu nombreux. Et puis, ça n'est pas encore du tout dans les habitudes que les femmes travaillent et qu'elles aient leur propre salaire. Et
qu'elles travaillent à l'usine.
Voilà.
Mais dans les champs, elles travaillent depuis fort longtemps.
Oui, mais ce n'est pas rémunéré.
C'est ça le problème. Est-ce qu'elle a parlé, par exemple, je sais que du temps de Sankara, il y avait tout un programme mis en place au niveau national pour l'égalité homme-femme, pour essayer de rétablir les choses, puisque les femmes travaillaient énormément et avaient peu de droits. Est-ce que de ça, on a parlé?
Elle m'a très peu parlé de Sankara parce qu'aujourd'hui, au Burkina, il ne fait pas bon parler de Sankara. C'est une figure qui a été totalement bannie. Les gens évitent vraiment de parler de politique. Et la seule fois où j'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle, elle a interrompu au plus vite. Mais à propos de cette campagne d'égalité des droits entre les hommes et la femme, je crois que la seule chose qu'elle m'a mentionnée, c'était des programmes de radio qui vantent l'égalité de l'homme et de la femme. Mais tout le chemin reste encore à faire.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, roho yangu I'm not afraid to die.
C'était Myriam Makeba, vous êtes toujours à l'écoute de Remue Ménage sur Radio Zone 93.8. Et en ce moment, nous parlons en compagnie de Martine Béguin, des femmes burkinabées qu'elle a rencontrées au cours d'un stage de danse qu'elle a fait justement au Burkina. Alors vous avez rencontré aussi une femme qui, elle, était secrétaire d'une association de femmes. Alors elles se sont organisées.
Oui, c'est ça. En fait, j'en avais entendu parler pendant les baptêmes parce que souvent les femmes me parlaient d'associations de femmes. Puis je me demandais quel type d'organisation c'était. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer la secrétaire d'une de ces associations. C'était assez intéressant parce que je me demandais si c'était des associations politisées ou vraiment organisées par rapport à l'émancipation de la femme. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est simplement des regroupements de femmes qui se réunissent, qui entre autres organisent les baptêmes et les fêtes, qui contactent les musiciens par exemple et qui dansent. Ça, c'est une de leurs principales activités. Et puis surtout, elles réunissent des fonds pour se donner des coups de main l'une l'autre quand elles seraient en difficulté. Alors si une vient d'avoir un enfant justement pendant le baptême, elles réunissent une somme pour aider la femme qui vient d'avoir l'enfant. Si une femme est à l'hôpital, elles réunissent de l'argent pour pouvoir payer les frais médicaux. C'est plutôt comme ça.
C'est comme une assurance un peu.
Voilà, un fonds de soutien. Et puis je leur demandais aussi si elles discutaient des rapports entre les hommes et les femmes. Elles me disaient que oui, mais c'est plutôt, disons, dans un état d'esprit, ce sont les femmes les plus âgées qui parlent aux plus jeunes et qui leur donnent des conseils pour essayer de négocier des rapports plus ou moins confortables avec leur mari. Mais elles n'ont pas du tout l'aspiration de changer les rapports hommes-femmes. Ou en tout cas, si elles y aspirent, elles n'osent pas y croire. À chaque fois, elles me disent que de toute manière, les hommes sont très contents de la situation qu'ils ont et que ça serait très difficile de faire évoluer la situation, en fait.
Mais elles-mêmes se plaignent de leur situation ou c'est simplement, par exemple, c'est vrai que des fois on a l'habitude de parler, de poser des questions qui sont typiquement européennes et qui les choquent. Ou elles se sont elles-mêmes posées ces questions qui nous tracassent, nous.
Bien, disons, je crois que, en tout cas, la plupart des femmes se plaignent. Bon, ben, de toute manière, ça, tout le monde le fait. Elles se plaignent souvent des rapports qu'elles ont avec les hommes et du fait qu'elles ont, entre autres, beaucoup plus de travail que les hommes. Elles ont un quotidien beaucoup plus pesant. Mais par ailleurs,
quelle est la grande différence dans le quotidien homme-femme ?
C'est-à-dire que justement les hommes en général travaillent en dehors de la cour, rentrent à la maison et mettent les pieds sous la table s'il y a une table, mais ils n'ont pas de tâches ménagères à effectuer et en dehors du travail qu'ils effectuent en dehors de la maison, ils ne font rien d'autre. Alors que les femmes souvent s'occupent de tout le ménage, des achats, de la préparation des repas et elles travaillent en plus au champ ou alors à l'usine et elles s'occupent des enfants. Enfin, elles sont toute la journée à la maison en train de bosser. Donc, elles se plaignent d'un côté, mais par ailleurs, elles n'ont pas vraiment l'espoir de changer quelque chose dans les rapports avec les hommes, parce qu'elles préfèrent se tenir les coudes entre elles que d'affronter l'homme et d'avoir sans arrêt des discussions avec lui.
Comment elles trouvent le temps pour se réunir, justement, pour créer ces associations ?
Eh bien, je crois qu'elles font ça l'après-midi, parce que c'est un moment où elles ont un peu moins de choses à faire. Elles se réunissent 3-4 fois par semaine, parfois le week-end. Et d'un certain côté, les hommes apprécient ces associations. D'une part parce qu'ils se disent que comme ça, les femmes ont leur vie sociale aussi. Elles se retrouvent entre elles. Et puis, peut-être aussi parce qu'ils s'aperçoivent que ça permet aux femmes de s'organiser et financièrement, entre autres, d'avoir des ressources. Ce qui les arrange, je crois.
Mais en fait, on retire de son petit budget encore une somme pour s'aider. Donc, c'est des choses qu'elles doivent... Elles s'entraident elles-mêmes, mais en même temps, elles prennent sur leur budget.
Oui, c'est d'ailleurs un des principaux problèmes que rencontrent ces associations, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes puissent cotiser. Et beaucoup des femmes burkinabées n'ont même pas les moyens de cotiser pour ce genre de choses. Puis les cotisations sont pour des choses utiles, comme pour les problèmes de maladie ou pour ces histoires de baptême. Mais parfois, elles cotisent aussi pour s'acheter des beaux pagnes, des beaux tissus, pour pouvoir aller dans les fêtes danser. Et il y a des femmes qui ne peuvent pas s'offrir du tout le luxe d'investir cet argent pour ça.
Et est-ce que la secrétaire vous a dit combien il y avait de membres dans son association à elle, par exemple ?
Alors, dans la sienne, elles étaient 200 femmes, ce qui est quand même beaucoup. Ça regroupait les femmes de différents quartiers de Bobo, mais surtout du quartier dans lequel elle habitait, elle. Et elle me disait que pratiquement tous les quartiers de Bobo avaient leur association de femmes. Je crois que c'est quelque chose de très répandu.
Et elle a parlé de son travail, en quoi ? Quel était son rôle de secrétaire ?
Elle ne m'a pas expliqué exactement. Bon, j'avais rencontré d'abord la présidente, et en fait, on s'aperçoit que la présidente, c'est surtout une présidente qui mène les danses pendant les baptêmes. C'est surtout son rôle, et surtout au moment de la danse. La secrétaire, je crois qu'elle avait à voir un petit peu avec la comptabilité, et le fait de réunir les cotisations, de décider pourquoi on allait les utiliser, ou bien s'il fallait cotiser pour un prochain projet, mais c'était pas beaucoup plus que ça.
Et puis, tout le monde n'apprécie pas, je crois, ces associations de femmes. Vous avez rencontré une autre femme qui, elle, critiquait ce système.
Mais oui, justement, c'était une femme très sympa, d'une quarantaine d'années, qui me disait qu'elle trouvait, elle, que ces associations, c'était une perte de temps parce qu'elle avait déjà assez de choses à faire. Elle avait une journée bien remplie et qu'elle n'avait pas de temps à perdre à papoter avec des femmes. Et puis que, par ailleurs, elle n'avait pas non plus les moyens d'investir pour s'acheter une belle robe, pour aller danser dans des baptêmes, par exemple.
Elle dansait, cette femme ?
Elle dansait aussi, bien sûr. Et elle aimait bien les beaux habits, mais elle n'aimait pas trop l'idée du groupe, comme ça, qui se doit de faire tout ensemble, et puis qui, en plus, demande beaucoup d'argent, alors que, souvent, les peu de moyens qu'ils ont doivent être utilisés à des choses vraiment prioritaires.
Et elle, comment est-ce qu'elle s'organisait, cette femme ?
Mais elle, c'était une femme assez indépendante, je dois dire. Elle était très surchargée de travail parce que la cour dans laquelle elle vivait était très grande et il y avait beaucoup d'hommes. Elle m'expliquait que le matin, il fallait en plus chauffer l'eau pour que ces messieurs se baignent parce qu'ils n'aiment pas se baigner à l'eau froide, alors que les femmes ne le font pas. Et puis, elle allait travailler au champ. Et alors, elle, son luxe, en fait, c'était de boire de la bière de mil, du chapalo. Et tous les soirs, en rentrant des champs, elle allait s'acheter son petit litre de bière, histoire de changer les idées. Elle était assez rigolote.
Et dans ces cours, comment ça se passe au niveau des repas ?
C'est des repas pris en commun. Ce sont les femmes qui préparent la nourriture et puis ensuite c'est servi dans des grands plats et les gens mangent avec la main, tous ensemble. En fait, la famille se réunit pour les repas.
Le soir ?
À midi et le soir.
Alors on revient du travail en général pour manger ?
Souvent, oui.
Et les enfants ? Il y a beaucoup d'enfants au Burkina ?
Il y a beaucoup d'enfants. Il y a des enfants partout dans la rue qui vous... Elles, comme ça... Nous, les Blancs, c'était les Toubabous. Alors, c'est toujours Toubabou, ça va ? Toubabou, ça va ? Il faut répondre, ça va, ça va. C'est le parcours rituel tout au long du chemin, on salue des enfants. Il y en a partout. Il y en a très peu qui vont à l'école, évidemment. J'ai trouvé que ce n'étaient pas les enfants les plus pauvres ou les plus mal nourris que j'ai pu voir. Ils avaient l'air assez rayonnants, comme ça. Mais très livrés à eux-mêmes, parce que bon, les mamans sont très occupées, les papas ne sont pas là. Et eux, souvent, ne peuvent pas aller à l'école parce que l'école, c'est trop cher.
Et là, par exemple, au niveau de cette femme dont vous avez parlé au début, par rapport à son enfant, est-ce qu'elle se fait du souci sur son avenir ? Est-ce qu'il pourra aller à l'école ? Ou bien, bon, on se dit, c'est comme ça.
Ben, je crois que c'est un peu aussi pour ça qu'elle espérait beaucoup le mariage, parce que c'est vrai qu'il faut des moyens pour pouvoir payer la scolarité d'un enfant, et elle le souhaitait vraiment. Elle souhaitait que son enfant ait des possibilités, comme elle-même espérait reprendre ses études. Elle me disait qu'un de ses plus grands regrets, c'était que d'avoir eu l'enfant à un moment qu'elle n'avait pas choisi, ça l'avait empêchée en fait, de reprendre des études. Et elle aimerait beaucoup faire des cours du soir et acquérir un petit diplôme quand même qui lui permettrait de trouver plus facilement un emploi.
Est-ce que justement, alors il y a la possibilité pour ces femmes de suivre des cours comme on avait une fois une émission sur le Bénin, où on voyait que les femmes étaient très... sur le Burundi aussi, où les femmes étaient très organisées.
Ben, je crois que ça dépend surtout de leur mari. Si le mari est quelqu'un de compréhensif, c'est vrai qu'elles ont la possibilité de suivre des cours le soir, par exemple. Mais si le mari fait opposition, bon, ben, il faut qu'elle reste à la maison. J'ai senti les femmes assez laissées à elles-mêmes, pas aussi bien organisées que celles dont vous parlez.
Il y en avait encore une autre qui était beaucoup plus jeune, elle avait 14 ans et elle revenait de Côte d'Ivoire.
Oui, ça c'était Thérèse. Je l'avais rencontrée parce qu'elle habitait juste en face de la cour où on dansait. Une fille très chou. Elle venait d'arriver au Burkina parce qu'en fait, il y a eu une loi sous Sankara qui avait décidé que les Burkinabés résidant dans d'autres pays d'Afrique devaient rentrer au pays. Bon, c'était la Côte d'Ivoire qui avait demandé ça au départ parce que, comme elle était en début de crise économique, elle voulait liquider la main d'œuvre étrangère. Mais par ailleurs, Sankara avait appuyé cette initiative en disant qu'il souhaitait que la main-d'œuvre qualifiée retourne en fait au pays pour reconstruire le pays. Et cette loi a été mise en place il y a 4 ou 5 ans à peu près. Et le père de Thérèse avait donc été appelé à retourner au Burkina Faso. Elle était installée depuis peu et avec elle, j'ai surtout parlé un peu des différences entre son quotidien en Côte d'Ivoire et au Burkina.
Quelle était la grande différence ?
Mais je crois que la Côte d'Ivoire est un pays quand même beaucoup plus développé. Elle m'a beaucoup parlé des grandes villes avec les grands immeubles qui touchent le ciel, avec les voitures, la circulation, les dangers de la circulation, la délinquance juvénile qui est beaucoup plus développée. Alors que le Burkina est un pays beaucoup plus pauvre, beaucoup plus simple, beaucoup plus paysan aussi. Et je crois que c'était ça qu'elle était en train de découvrir, deux rythmes de vie très différents.
Elle avait l'envie de continuer ses études.
Voilà, et elle pouvait le faire parce que son père est directeur d'une chaîne d'hôtels, je crois. Et elle pensait faire des études d'infirmière. Parce qu'elle me disait qu'elle avait vu beaucoup d'enfants malades, elle trouvait ça triste. Des enfants malades du palu, de dysenterie, et elle voulait faire quelque chose pour pouvoir les aider.
Et là, vous avez essayé de parler de politique quand même un peu, parce que c'est vrai que depuis la mort de Sankara, on se demande ce qu'est devenu la révolution. Est-ce que vous avez pu vraiment échanger des choses à ce propos ?
Non, ça c'était vraiment le sujet le plus difficile à aborder. Autant les gens sont ouverts pour parler du quotidien, de leurs traditions, pour même parler des rituels comme ça, religieux, assez secrets. Les gens sont très ouverts au dialogue, mais en politique, vraiment, les gens refusent de parler la plupart du temps. La seule fois que j'ai eu l'occasion de parler, c'était avec un jeune étudiant qui était d'accord de me parler de politique à la condition que je ne me serve pas de ce qu'il me dirait dans une émission ou dans un article de presse, parce qu'il appréhendait beaucoup d'avoir des ennuis à cause de ça par la suite. Il m'a expliqué que après le coup d'État de Kampaoré, donc qui avait éliminé Sankara, les militaires sont descendus dans les usines et dans les écoles pour expliquer à tout le monde qu'il fallait qu'on oublie Sankara, que Sankara était devenu un traître à la Révolution et que maintenant Kampaoré était là pour redresser le pays, c'était lui le dirigeant du pays et qu'il fallait oublier le passé. Et les gens qui parlaient étaient menacés de représailles, donc c'était vraiment un sujet très difficile à aborder.
Et là, en revenant, quand vous êtes revenu chez nous, quelle image de ces femmes vous avez gardée le plus fort dans votre esprit ?
C'était la complicité qu'il y a entre elles, cette complicité que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager. Les femmes, en fait, sont très soudées entre elles, même si elles n'ont pas vraiment d'objectifs politiques ou de choses qui les soutiennent. Mais c'était vraiment un plaisir de pouvoir les côtoyer et de sentir cette complicité avec elles.
Alors là, on va refaire une petite pause musicale avec Myriam Makeba.
If I could be a shimmering star, I'd shine now, how I would shine. Someone I love has promised to be mine now, mine now. Someone is mine. I said, ring bell, tell the world that all is well. Ring bell, love is here and all is well. If I could be a shimmer, someone is mine. I said, ring bell, tell the world that all is well. Ring bell, love is here and all is well. Yesterday, just another day.
Oui. Myriam Makeba, qui est notre voix africaine, puisqu'on a peu de disques et on n'avait pas de disques pour illustrer les danses du Burkina, puisque Martine Béguin était avec nous aujourd'hui pour nous en parler, parler du contact qu'elle avait avec ces femmes. Vous avez déjà des projets d'aller danser à quelque part, très loin ?
Non, pas pour le moment. Pour le moment, je vais rester à Genève, je crois. Mais si j'ai l'occasion de retourner danser en Afrique, oui, je le ferai volontiers.
En tout cas, je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se dirigent en direction du Burkina. Il y a un groupe qui s'appelle Action Vélo. Il va au village de Nounou, au Burkina. Ils vont amener des vélos afin que certains élèves qui se trouvent très loin de leur école puissent venir plus facilement prendre leurs cours. Donc, on va leur amener des vélos. On va aussi construire un atelier de mécanique. Ce groupe va partir de Genève au mois de juillet. Il a encore besoin de trouver un médecin ou un infirmier qui puisse l'accompagner. Donc si vous êtes intéressé par cette démarche, vous faites un numéro de téléphone, le 022 28 39 27. Si un médecin ou une médecin, une infirmière ou un infirmier veulent aller au Burkina Faso. Voilà, c'est Remue-Ménage et on continue, mais avant tout, un peu de musique.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma jolie môme. À ton cœur, à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Les baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme.
Joli môme, c'est Juliette Gréco sur Radio Zone 93.8, Onde Femme. Bientôt la suite de notre programme. D'ici à 16h, la rediffusion de Remue-Ménage. Et à 18h30, Radio Pleine Lune. Vous êtes toujours sur Radio Zone 93.8.
C'est Remue-Ménage sur Radio Zone. Et la suite de notre programme, c'est d'aller faire un petit tour au Salon du Livre. Nous y étions ce matin avec Catherine et Fabienne. Alors on s'est promené, on a été au hasard de nos rencontres, car il faut dire que le Salon du Livre s'est ouvert ce matin. Comme vous le savez, Radio Zone y est présent et attend votre visite, c'est très important. Et donc ce matin, comme c'était l'ouverture, il y avait peu de monde, alors on a été plus ou moins par là où on avait envie.